Aïe, version plate de ma petite musique ce matin. Salut, madame Mauricieux. Alors, grosse journée hier, grosse journée. Écoute, comme je t'ai dit, j'ai eu mon premier épisode de 1000 écoutes, c'est que ça s'en va vers là. La norme bientôt va être 1000 et plus dans Balado Québec. Ça fait que là, je calcule, tu sais, que c'est comme hey, toutes les autres plateformes. Ça fait que je suis très content de tout ça. J'ai fait une très bonne rentrée radio de la semaine. La semaine passée, ça va être ordinaire. J'ai fait hier, c'était bon. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? J'ai parlé de mon livre, j'anime le show jeudi à Québec. Une bonne semaine. Une très bonne semaine. Puis merci d'être à l'écoute, comme d'habitude, et de vos commentaires. Il y a Biouvard qui m'a écrit comme quoi il y avait, tu sais, je disais hier que moi, ma vision de l'humanité, c'est qu'elle est partie en couille, là, tu sais, elle est partie là, dans un sens dû à l'intelligence qui fait que c'est pas en lien avec le reste de la nature. Bon, alors, question qui peut être débattable. Rendu là, c'est plus une... Comment on définit ces choses-là, là, que le fond de l'affaire. Mais il m'a envoyé un article qui vient de l'Université McGill qui parlait d'une colonie de fourmis qui élève une espèce de petite bébite, qui les garde littéralement, là, comme... ça fait que, tu vois, dans la nature, il y a quand même pas que l'homme, comme je disais, qui fait de l'élevage. Alors voilà, c'est comme souvent, on dit qu'il y a des pingouins... Il y a des pingouins qui ont un seul partenaire toute leur vie. Il y a toujours quand même quelques petites exceptions à toutes, mais moi, je pense pas que ça change la règle de comment je vois ça, là. Mais bref, alors c'était le sujet d'hier, donc on reviendra pas là-dessus. Là, il y a un article de Patrick Lagacé dans la presse aujourd'hui. Puis il parle de Denis Coderre qui dévoile pas ses revenus. Puis lui, il dit c'est parce qu'il y a des ententes de confidentialité avec d'anciennes compagnies. Puis là, il remet en question le fait que, attends un peu, si Coderre a déjà travaillé avec le projet pour ramener le baseball dans les dernières années, ça va-tu faire de lui une influence, etc.? Puis ça pose la question, c'est quoi l'importance du passé dans la vie des politiciens, puis dans la vie en général, puis dans la vie des gens qu'on rencontre? Je suis très ambivalent là-dessus, moi. Parce que d'un côté, je trouve ça plate qu'on ramène les gens à des affaires d'il y a 20 ans, tu sais. Il y a 20 ans, t'as dit ça, ou il y a... T'as déjà, tu sais, je me souviens une fois, il y a un bonhomme, là, un vieux qui faisait du théâtre. Puis on avait retrouvé qu'il avait déjà été dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, parce que, tu sais, c'est un gars qui a dû naître en genre 1918. Puis dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, il était dans les jeunesses hitlériennes, nazies ou d'extrême droite. Peut-être pas nécessairement avec une croix gammée sur le bras, là, mais il était dans une mouvance de même quand il était à l'université, je pense. Puis vous connaissez son nom, là, ça m'échappe. Là. C'est un gars qui a l'âge d'Edgar Fruitier. Là. C'est dans cette ligue-là, là, des hommes de théâtre. Bon. Puis j'avais lu ça, puis c'était comme... OK, c'est sûr que c'est un peu moyen, mais ça peut être une bulle au cerveau. Ça peut être des amis que tu avais dans le temps qui avaient une mauvaise influence. Moi, je me souviens, j'ai eu une pause quand j'étais... quand je suis arrivé à Montréal, c'était très difficile, mon arrivée à Montréal, à cause que... Je travaillais juste pour rire, puis c'était comme, tu sais, je voulais compter l'affaire, là. J'avais envoyé un CV à Gilbert Rozon, il m'avait engagé, il m'avait inventé une job. J'y dois beaucoup, là, honnêtement. Là, toute mon arrivée dans le showbiz, c'est vraiment Gilbert qui a fait comme, OK, je vais te donner une job. Je travaillais à billetterie l'été, imagine, tu sais, c'est comme... Mais bref, je voulais, j'étais motivé, puis c'était comme, OK, j'ai le pied dedans, puis comme de raison, tu sais. Puis...
Le week-end, je retournais... parce que je trouvais ça...
À Québec. C'était insupportable. Je prenais tout le temps l'autobus en fin de journée, le vendredi vers 4 heures, puis je revenais avec l'autobus du lundi 7 heures le matin pour arriver à 10 heures, tu sais. Et à ce moment-là, je me tenais beaucoup avec un ami d'enfance qui s'appelait Martin, que je vois plus maintenant, mais bref. Puis on sortait, là, je veux dire, sérieux, là, le vendredi et le samedi, là, je rentrais chez nous à 5 heures minimum, 6 heures, des fois le soleil se levait. Puis c'était pas à grosse partouze, c'est juste qu'on fermait les bars à 3 heures, puis on s'en allait dans des petits after-hours, mais privés, pas des after-hours de rave, là, tu sais, j'ai jamais mis le pied là, mais, tu sais, mettons, le Dauteuil, là, sa rue Dauteuil, qui était une salle de spectacle, bon, il connaissait le boss, puis le boss, ben, quand il fermait son bar, ben, il y avait toujours un genre de cercle, une dizaine de personnes qui savaient qu'ils pouvaient aller là. Des fois, on était 8, des fois, on était, tu sais, mais... On n'était pas couchable. Alors, lui, pourquoi? Je sais pas, j'ai pas eu la conversation. Moi, ça faisait mon affaire un peu comme de... de dire calvasse, je m'éloigne le plus possible de ma vie à Montréal, qui était au plan personnel très le fun, puis qui était au plan de travailler juste pour rire, épouvantablement zéro, tu sais. C'est fait que, tu sais, à la rigueur, on pourrait dire, vous allez dire que l'exemple, si on est loin de quelqu'un qui est dans un parti nazi, mais on pourrait dire, ah oui, mais toi, t'as été un gars qui se couchait à 6 heures du matin, puis t'as fait... Tu sais, mon chum était dans cette mouvance-là, j'étais dans un état d'esprit qui faisait... C'est-à-dire, avec un exemple facile, comme un exemple plus troublant, là, mettons, tu sais, tu peux dire que dans vie, on a des passes où est-ce que, bon, là-dessus, oui, j'étais de ce côté-là, maintenant, je suis plus de ce côté-là, j'ai été exagéré. La plupart des gens ont un côté exagéré, tu sais. Ça peut être X, Y ou Z, mais tout le monde a un côté à quelque part. Puis il ne dure pas la vie. Sinon, on est réellement, littéralement un toxicomane ou un... Tu sais, là, c'est une autre affaire. Si on a un problème de jeu réel, puis tout perd la maison, bon... Tu sais, il y a des degrés à tout ça, mais tout le monde a quelque chose qui est un peu exagéré. Souvent, c'est, tu sais quoi qui est exagéré? Ça paraît juste pas, mais je vous en parle souvent, c'est la peur du risque. Souvent, il y a des gens très tranquilles, matchés depuis longtemps... mais qui ont une aberration pour le risque, puis c'est exagéré. Ça leur fait faire des vies qui sont fort probablement en dessous de leur vrai potentiel. D'après moi, je suis en train de vous décrire la grande majorité. Je le pense sincèrement, que c'est un... Ce qui devrait être un élément dans une prise de décision, c'est-à-dire quel est le risque, en quoi je prends ça comme il faut faire attention, etc., devient un modus operandi, devient le critère décisionnel. Faire en sorte que je diminue le risque, peu importe c'est quoi la situation, que ce soit acheter de la farine ou me matcher ou pas. Ça fait que moi, c'est mon point de vue. Si tu te fous du risque, tu finis par vraiment te planter fort. Puis si tu es tout le temps en train de mettre le risque en... Bon, ça fait que ça veut dire que on a tous quelque chose qui est exagéré, puis il y en a qui c'est spectaculaire, puis il y en a qui c'est... Ça passe quasiment pour du bon monde très gentil, tu sais, parce qu'il dérange personne. Je l'ai toujours dit, quand tu gères le risque à ce point-là, c'est le fun pour tout le monde autour de toi, quasiment. Là. C'est toi le perdant à la fin, parce que les autres, tu déranges qui? Personne, tu sais. Ça fait que tout ça pour dire que quand tu regardes un petit peu là, sur du temps long, tu réalises qu'on fait des affaires jeunes, qu'on n'est plus... Il y a 1000 exemples qui me viennent en tête. Ma cousine Lynn, OK, qui est vraiment, de toutes les cousins-cousines que j'ai, celle de qui j'ai le plus d'affinité, puis de qui je suis le plus proche, puis on a toujours eu du gros, gros fun depuis qu'on est jeune. Lynn, là, quand elle était ado, là, je te parle au secondaire, jusqu'à une partie de cégep, c'était, là, écoute, elle écoutait du mythe, parce que Metallica est devenu très populaire à Québec, avant de l'être ben ailleurs dans le monde. C'était un de leurs, vraiment, le château fort, là, Québec, là, ils remplissaient le Colisée. Moi, j'entendais parler de ça, Metallica, mais pas plus. Puis à un moment donné, paf, ils sont devenus vraiment le Metallica qu'on connaît. Puis Québec a toujours été une ville où ce que le rock avait une emprise particulière. Moi, je faisais pas partie de ça, là, mais je le constatais, tu sais, puis c'est connu. Ben, crime, tu sais, Lynn, là, moi, le souvenir que j'ai de cette période-là, c'est qu'elle avait la grosse tignasse de cheveux, les écouteurs, ses oreilles, elle regardait à terre, elle parlait pas à ses parents, elle rentrait dans sa chambre. Tu sais, la vraie ado... dans sa chambre avec son cercle d'amis, puis bon. C'est qu'on aurait pu dire, oh mon Dieu, comment elle va virer? Comment Lynn va virer? Elle parle pas à personne, elle s'intègre pas, elle vient manger, elle retourne dans sa chambre. Il y avait un local à Limoilou, je sais pas trop c'était quoi, elle appelait ça le local, puis c'était là, elle puis ses amis avec leur T-shirt... justement, de show rock, puis de Slayer, puis de tout ce que tu veux. Tu sais, la grosse, grosse caricature là, de ce que je te parle, là. L'équivalent, moi, au secondaire, là, d'Éric Tremblay avec ses chemises de chasse, ses bottes de jobber, puis des périodes comme ça, d'ado, parce qu'il y en a qui sont comme, ah, je fais du sport, je suis donc un ado allumé, fantastique, puis il y en a d'autres, ils sont dans le sous-sol, puis c'est de même qu'ils vivent ça, tu sais. C'est-à-dire qu'on aurait pu, à juste titre, dire, oh, ouais, Lynn, et on aurait pu dire... aujourd'hui, moi, je regarde le passé. Vous, Mme Lynn, vous avez eu une période où vous étiez vraiment renfermée sur vous-même avec... tu sais, ultimement, là. Ben Lynn, après ça, elle a fait son bac en mathématiques. Elle est devenue prof de maths. Et puis, elle est matchée avec Hugues depuis la nuit des temps. Ça fait, je sais pas, moi, 20 ans. Puis, ils ont deux filles, dont une s'en va en pharmacie, puis l'autre qui sont bonnes dans toutes. Depuis qu'ils sont au primaire... sont bonnes dans juste toutes. fais comme... Tu sais, habituellement, chez nous, c'était le français, mais pas les maths. Eux autres, tout. Fait que tu fais, attends une minute, là, c'est quoi le lien entre elle aujourd'hui, la façon que ça marche, comme son entourage, l'influence qu'elle a autour d'elle, puis quand elle avait 14 ans, t'sais, bon, on en revient. Ça fait que c'est cette tendance-là à reculer en arrière en disant « oui, mais, ça va-tu vouloir dire que? » Moi, c'est drôle, mais j'achète pas ça. Alors, d'un autre côté, parce que j'ai commencé en vous disant « je suis ambivalent », d'un autre côté, il y a quand même des choses révélatrices. J'appelle ça la théorie du banquier. Vous remarquez que quand vous voulez faire un prêt dans une banque, on vous demande les 3 dernières années financières, donc vos rapports d'impôt des 3 dernières années. Pourquoi c'est pas les 20 dernières années? Parce qu'à un moment donné, on en revient. Puis c'est comme là, je veux dire, il y a du monde de 22 ans, on ne va pas leur demander leur état financier quand il y avait la couche aux fesses. Puis d'un autre côté, de dire juste « Ah, t'as l'air d'un bon gars, puis l'an passé, t'as fait une bonne année. » Il y a du monde comme moi qui font des meilleures années que d'autres. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a la paye qui rentre indexée à 2 % par année là, à la fonction publique. Ça fait qu'ils ont décidé qu'une fenêtre de 3 ans vers en arrière, c'était révélateur d'une tendance. Bon, bien ça, moi aussi, j'y crois. Moi, je pense que quand tu regardes les gens, il faut que tu acceptes de voir qu'il y a des tendances. Tu regardes c'est quoi la vie que quelqu'un a menée, bien, il y a du monde qui sont plus irréguliers, zigzags comme moi. Il y a des gens qui sont d'une stabilité déconcertante comme d'autres. Mais tu fais cette tendance-là qui va bien au-delà juste de 3 ans, que tu peux regarder quasiment sur l'échelle d'une vie. Bien, tu fais ça, cette personne-là, elle a cette tendance-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle peut être ailleurs, elle peut vivre une autre expérience, tu rencontres d'autres mondes. Tout se peut. Mais tu peux quand même partir en disant, bien, coudon, cette personne-là, elle a cette tendance-là. Puis tu ne te trompes pas de partir avec cette prémisse-là. Mais moi, où je trouve que tu te trompes, c'est quand tout à coup, tu prends des événements particuliers, puis là, tu retournes en arrière en disant, ah, oui, mais t'as fait ci, puis t'as fait ça. Moi, je crois que honnêtement, tout le monde a une capacité de changement sur toutes sortes d'affaires. Je vous ai parlé, oh non, c'est pas vous autres, j'ai parlé, c'est dans mon Patreon, où j'ai parlé des problèmes que j'avais eus vers début trentaine, où j'avais fait des états dépressifs à cause que ma façon de gérer les problèmes, c'était de fuir. C'était vraiment ça. Puis à un moment donné, il m'est arrivé de quoi? J'ai tout parlé de ça. C'est mon club privé de cette semaine. Là. Si vous allez patreon.com/Marc Boilard, puis que ça vous interpelle un peu, abonnez-vous. D'ailleurs, j'ai mis le forfait maintenant à 3 $ par mois. Donc, ça n'a jamais été aussi peu cher parce que j'ai compris qu'à 7, il y avait des résistances, c'était l'affaire. Je vais faire une autre parenthèse aussi tantôt par rapport à ça. Donc, tout ça pour vous dire que si maintenant j'ai à vous dire c'est quoi ma formule là, par rapport à qu'est-ce qu'on prend du passé des gens, là, ben, je pense qu'on ne prend pas des événements ponctuels, on ne prend pas des « il a dit ça en 2003 », je trouve ça complètement zéro. Puis je vois que des journalistes sont très attachés à ça. Alors, on va fouiller dans le passé, il aurait tweeté que « sérieux, là, toi, tu n'as jamais rien dit qui était zéro, ça me fait capoter ». Par contre, je crois à la théorie des états financiers. Ou est-ce qu'il y a quand même des tendances lourdes qui existent? La musique vient d'arrêter. Je suis pas content. Hein? En tout cas, c'est pas grave. Hein? C'est live. Hein? Je suis pas d'accord avec cette idée-là de pinpointer un truc, mais je suis d'accord à dire ça vaut la peine de faire regarder. C'est quoi l'allégeance? C'est quoi? On appelle ça la tendance lourde. En sociologie, ça existe. C'est comme en droit, on va dire une faute lourde. Une faute lourde, c'est pas illégal. Quand je vous avais dit mon ancien partner avait joué dans notre compte de banque de la compagnie, mais il s'est pas mis une scène dans ses poches, mais on s'est financé sur le dos d'un de nos clients sans que le client en question et moi, on le savait. Ça, c'est notre négligence. Bien, c'était une faute lourde. C'est-à-dire que non, tu fais pas ça, mais non, il n'y a pas eu un acte qui est répréhensible comme tel par la loi. Il y a juste une communication qui n'a pas eu lieu avec du monde qui était négligent. Comprenez-vous? Ça fait que moi, qu'il y ait une faute lourde dans le passé de quelqu'un, ça se peut. Là, à chacun de juger si c'est une marque indélébile ou bien au contraire. Mais que quelqu'un fasse quelque chose ou dise, surtout dise quelque chose, puis que là, ah oui, puis là, c'était pas correct, puis qu'on s'en sort pas, on n'est pas passé à autre chose, on n'a pas compris le contexte ou autre. C'est que moi, je suis pas là-dessus. Alors, pour revenir à l'idée de Denis Coderre qui ne montre pas ses rapports d'impôts puis veut pas montrer les liens qu'il y a eu telle affaire parce qu'il aurait signé des ententes de confidentialité, moi, ça me dérange pas. Parce qu'après ça, je veux dire, anyway, c'est comme si le gars, on est en train d'élire un roi, là, le roi de France. Caroline, on est dans un système où il va y avoir une opposition, il y a des règles, le droit est par-dessus ça. Le maire d'une ville, là, ça part pas en échappée. Surtout depuis la commission Charbonneau, où est-ce qu'avant, j'aurais pu dire, ouais, mais là, il peut y avoir des échanges d'enveloppes qui, encore là, sont pas l'équivalent de dire, c'est un criminel, là, tu sais, genre, il a tué des enfants, ils sont dans leur sol. Fait qu'en tout cas, mon point, c'est ça, puis j'ai commencé en vous disant que je suis ambivalent dans le sens que je peux pas vous donner une formule super claire, mais la meilleure que je peux vous donner par rapport à l'évaluation du passé des gens, notamment en politique, mais même au plan personnel, c'est que j'ai tendance, moi, à pas m'arrêter du tout aux événements ponctuels dit ou fait, à moins que ça soit d'ordre criminel, là, tu sais, c'est comme, là, ça devient infréquentable. Mais je trouve qu'il faut avoir une certaine... Il faut un peu s'occuper de cette personne-là, c'est quoi son style depuis le jour 1? C'est quoi ses allégeances depuis le jour 1? C'est très rare qu'on change dramatiquement de personnalité, mais on a des expériences qui font en sorte que, tout à coup, on va changer de point de vue, puis on va changer de comportement. Mais on reste la personne qu'on est, mais avec des changements. Puis c'est à peu près la meilleure façon de doser ça que je peux exprimer. Alors, voilà. Qu'en pensez-vous, chers amis? Bonne journée.